Ce serait quoi la belle vie? Ce serait quoi? Qu'est-ce que c'est que la belle vie? Et par la belle vie, je ne parle pas de la chanson de Sacha Distel. Je veux dire, par contre, par la belle vie, une bonne vie, une vie agréable, une vie satisfaisante. Mais ce serait quoi la belle vie? Il suffit tout simplement d'ouvrir un magazine ou un journal, de regarder les publicités qu'il contient. Oubliez ce que disent les journalistes ou les chroniqueurs. Les images, je pense, parlent plus fort. Même avant d'arriver à la table des matières, la belle vie nous a déjà été décrite, n'est-ce pas? La belle vie est un costume de Ralph Lauren qui va impressionner les filles à votre prochain apéritif dînatoire, n'est-ce pas? La belle vie, c'est un café tellement bon que dans la bouche, c'est comme un dessert fondant. La belle vie, c'est une Bentley, chic et sophistiquée, mais puissante et sportive aussi, comme vous, bien sûr. La belle vie, c'est une eau de toilette sensuelle qui augmente notre confiance. La belle vie, c'est un champagne millésimé. La belle vie est un bon fromage qui nous transporte dans les montagnes, qui améliore notre vie amoureuse, n'est-ce pas? Selon les publicités. La belle vie, c'est un Rolex, ou mieux, c'est un Rolex au poignet d'un beau gosse dans une belle voiture. La belle vie est un fauteuil en cuir, des vacances en Corse, des belles femmes dévêtues dans un bain tourbillon sur une grande terrasse avec une superbe vue de la mer. C'est ça la belle vie, selon les pubs, n'est-ce pas? Mais pour d'autres, la belle vie, c'est quelque chose de plus sobre, de plus réfléchi. Pour les Grecs de l'Antiquité, la belle vie était définie par ce qu'ils appelaient l'eudaimonia, c'est-à-dire une vie florissante, caractérisée par le bonheur. Pour Aristote, cela voulait dire une bonne santé, une famille aimante, une carrière épanouissante. La belle vie découlait de la pratique de la vertu. Pour Épicure, la belle vie était caractérisée par un maximum de plaisir, un bon équilibre dans la vie, qui évite les excès mais qui recherche le plaisir charnel. Plus récemment, Comte Sponville, un philosophe français, a parlé de la belle vie en disant que le bien-être, lui, est quantifiable. Le confort, la santé, la richesse peuvent être mesurés, mais pas le bonheur. Ce qui compte, c'est, et je cite, le plaisir, l'amour, l'action, la justice, la vérité, la vie. Pour lui, la belle vie, c'est la vie elle-même. Vous pourrez sûrement ajouter vos propres idées, vos propres définitions, mais la question demeure, c'est quoi, en fait, la belle vie? Dans le livre de l'Ecclésiaste, le Coëlète, ou l'auteur de ce livre, qui est le prédicateur ou le philosophe, nous parle de la belle vie en nous parlant de ce qu'il a recherché sous le soleil. C'est-à-dire dans un monde où la vie quotidienne serait déconnectée de Dieu et de toute réalité éternelle. Et il nous montre combien le plaisir de cette vie est décevant quand Dieu n'est pas au centre de notre recherche du bonheur. Le Coëlète nous montre la vanité et l'absurdité d'un monde où Dieu n'entre pas dans notre vision du monde. Vous voyez? L'idée principale est la suivante. Le seul plaisir durable, c'est le plaisir qui se trouve en Dieu. Le seul plaisir durable, c'est le plaisir qui se trouve en Dieu. Alors on va lire Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 11 aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 11. J'ai dit en mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. Du rire, j'ai dit, c'est de la démence et de la joie, que vient-elle faire? Je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie s'il est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignobles. Je me suis fait des jardins et des parcs. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes, et j'ai eu leurs fils nés dans la maison. J'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétail, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, précieux trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Je suis devenu grand. J'ai surpassé tout ce qui était avant moi à Jérusalem. Et même ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie de mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. Puis j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les faire. Et voici que tout est vanité et poursuite du vent. Il n'en reste rien sous le soleil. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce texte que nous venons de lire. Nous te remercions pour ta révélation qui nous conduit dans la sagesse, dans la vérité et dans l'amour. Nous te prions d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous apprenions quelle est ta volonté et pour que nous comprenions combien grande est ta grâce. Aide-nous dans l'étude de ce texte, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le seul plaisir durable, c'est le plaisir qui se trouve en Dieu. Et comment est-ce que j'arrive à cette conclusion alors que le texte ne parle pas de Dieu? On a parlé un peu de ça tout à l'heure dans notre atelier de prédication. Encore une fois, le Colette nous donne sa perspective sous le soleil, c'est-à-dire dans un monde sans Dieu, dans un monde où on ne connaît pas Dieu. Le Colette ne nous parle pas d'une vie où il y a quelque chose au-dessus du soleil, mais il nous parle seulement de la vie sous le soleil dans ce texte, et du caractère futile et absurde de cette vie-là. Il veut nous montrer que l'âme immortelle ne peut jamais être satisfaite par les plaisirs charnels. Et cette réalité peut soit nous pousser au désespoir, soit nous diriger vers Dieu qui a une réponse à nous offrir. Dans ce texte, Colette recherche la belle vie sous le soleil. Il pratique la belle vie sous le soleil. Et enfin, il désespère de la belle vie sous le soleil. Premièrement, le Colette ou le philosophe recherche la belle vie sous le soleil, dans un monde séculier. On a déjà vu que la recherche de la sagesse avait mal fini pour lui dans des autres textes. Et maintenant, ce philosophe cherche le sens de la vie dans le plaisir. Au verset 1 à 3, il pense que le plaisir pourrait apporter une réponse au vide dans sa vie. La phrase « j'ai dit en mon cœur » indique qu'il a pris une décision, qu'il a appliqué son esprit à quelque chose. Il nous invite à observer son expérience. Il ressemble à un scientifique qui veut tester son hypothèse en fait. Il est comme un chimiste qui va mélanger les plaisirs du monde dans un grand récipient et qui attend maintenant la réaction ou peut-être même l'explosion. Mais avant même de nous présenter sa recherche, il nous annonce déjà la conclusion. Vanité, c'est une futilité, une absurdité. Le verset 2 nous dit, qu'il a recherché le rire. C'est un mot qui est utilisé ailleurs dans la Bible pour décrire des activités superficielles qui conduisent à la moquerie et à la folie. Mais il a recherché aussi la joie, nous dit le texte, un mot qui représente plutôt les plaisirs qui se trouvent dans des fêtes, dans des activités ludiques. Le prolète garde une certaine lucidité en recherchant les effets du plaisir. Ils vont montrer ce que c'est que la belle vie sous le soleil. Il nous dit qu'il a évalué objectivement ses activités folles tout en gardant sa sagesse. Et le résultat de son expérience amène une conclusion qui est pareille pour le rire et pour la joie. Les deux sont absurdes. Tous les plaisirs, soit décadents et fous, soit sains et justes, finissent pareil. Il cherche encore le sens de sa vie. Il cherche quelque chose qui pourrait remplir le vide éternel de sa vie, mais il essaie des choses temporelles et ça ne marche pas. Pour prendre un exemple, sur le réservoir de ma voiture, il est marqué diesel, ce qui veut dire que le moteur ne marchera que s'il y a du bon carburant, dans ce cas, du diesel. Et bien sûr, je suis parfaitement libre de remplir le réservoir avec autre chose que du diesel, comme du lait, du chocolat chaud, ou du miel, ou d'autres choses comme ça. Mais le bon fonctionnement du moteur dépend du bon carburant, n'est-ce pas? Et de la même manière, notre réservoir spirituel doit être rempli de ce qui convient. Le Kohelet a un vide en forme de Dieu dans son cœur. Il essaie de le remplir avec quelque chose qui prend la forme du plaisir. Et ça ne rentre pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Nous savons qu'une cheville carrée, ça n'entre pas dans un trou rond, n'est-ce pas? C'est logique. Mais quand nous recherchons le plaisir de la belle vie dans des choses autres que Dieu, nous nous trouvons en quelque sorte devant un trou rond, mais avec une cheville carrée dans la main. Sans Dieu, en fin de compte, nous n'allons pas être satisfaits des résultats de notre recherche de plaisir. Peut-être que le seul plaisir durable, c'est le plaisir qui se trouve en Dieu. Mais malgré la conclusion qu'il nous a déjà donnée, et d'après laquelle cette recherche du plaisir aboutit à la vanité, à l'absurdité, à la futilité, le philosophe nous montre deuxièmement comment il a pratiqué la belle vie. Les versets 4 à 8 nous donnent une liste. C'est un manuel de l'hédonisme pour les novices, en fait. C'est le mot d'emploi pour vivre dans les excès. Ici, il nous donne donc une liste de plaisirs purement charnels. Par exemple, le verset 4, le mot maison au verset 4 ne fait pas référence à la maison de l'Éternel, mais plutôt à des maisons habitables, luxueuses. Les vignobles montrent les richesses du Kohelet et correspondent à sa passion du vin qui est mentionnée au verset 3. Les jardins et les parcs révèlent encore l'opulence de ce roi philosophe. Ces parcs étaient probablement des forêts qui fournissaient les matériaux nécessaires pour construire les palais. Il a préparé toute l'infrastructure qu'il fallait pour subvenir à ses gros projets. Il était assez puissant pour avoir de nombreux serviteurs, des esclaves, du bétail. Il était riche en or et en argent, dit le texte. À une époque où la musique était un luxe, il avait de nombreux musiciens, des chanteurs, des chanteuses. Il avait les plus belles dames du monde et tous les plaisirs sensuels imaginables. En fait, ce serait logique, selon cette description, de supposer que le Kohelet est en fait Salomon, le roi Salomon, parce qu'on se souvient de ses 700 femmes, ses 300 concubines qui sont mentionnées dans d'autres textes de la Bible. Ces chiffres attestent en fait de sa puissance, son pouvoir. Le Kohelet a obtenu des femmes grâce à des alliances avec d'autres nations qui voulaient bénéficier de sa protection, par exemple, ou son amitié, son influence. Il a fait l'expérience de tous les plaisirs esthétiques, matériels et physiques sous le soleil. Ce qu'il nous dit à travers ses actions, c'est je dépense de l'argent parce que j'en ai. Je dépense de l'argent parce que j'en ai, tout simplement. Ça me fait penser aux excès des riches, en fait, à ces stars qui brûlent des billets de banque pour allumer leurs cigares cubains, par exemple. Ça me fait penser à Mike Tyson, l'ancien boxeur, qui a gaspillé 2 millions de dollars sur un bain noir. 2 millions de dollars. C'est incroyable. Et ensuite, 140 000 dollars pour deux chats domestiques. En fait, c'était des tigres, mais pour être plus précis, on a tous besoin des tigres dans notre maison, n'est-ce pas? Ça me fait penser à Victoria Beckham, la chanteuse anglaise, la femme de David Beckham, qui a dépensé une toute petite somme d'argent, 30 000 livres sterling, pour être plus précis, sur une housse de téléphone portable, en fait. C'est incroyable. En or, bien sûr, mais encore plus ridicule, ça me fait penser à Paris Hilton, célèbre héritière de la famille Hilton, qui a fait construire une petite réplique de son manoir destiné à ses chiens pour 300 000 dollars. C'est le genre d'infos dégoûtants qu'on lit des fois dans des magazines, dans des journaux et tout ça. Le mode de vie des super riches est dégoûtant, en effet. On est dégoûté par leur vie pleine d'excès, n'est-ce pas? Mais si nous, aujourd'hui, nous étions honnêtes, nous reconnaîtrions que nous sommes jaloux, au fond. Les pauvres méprisent les riches parce qu'ils veulent être les riches, n'est-ce pas? Si nous sommes honnêtes, en fait, nous lisons cette liste de plaisirs que nous présente le Colette et nous nous disons, est-ce que c'est si futile que ça? Est-ce que c'est si futile que ça? Mais ironiquement, les plaisirs des Français au XXIe siècle dépassent de loin ceux du Colette. Votre appartement, par exemple, avec ses radiateurs et sa climatisation, est plus confortable, j'imagine, que l'habitation de Salomon. Vous pouvez traverser le monde en quelques heures par avion, si vous voulez. Vous êtes entouré de nombreux esclaves, à savoir des machines qui rendent la vie plus facile à bien des égards. Vous avez un vin de meilleure qualité en France et en plus grande quantité. Vous avez de musique, plus de divertissement que Salomon. Et malheureusement, avec l'Internet, vous avez accès à bien plus des concubines que Salomon aurait jamais pu imaginer. Vous voyez? Avec tous ces plaisirs, le taux de suicide en Europe reste incroyablement élevé et stable. Mais peut-être qu'avec un peu plus de plaisir, on pourrait oublier ce genre de constat déprimant. Ou peut-être que le seul plaisir durable, c'est le plaisir qui se trouve en Dieu. Le Colette, en tout cas, est honnête, je trouve. Au verset 9 à 11, notre philosophe termine son discours sur le plaisir. Et le troisième point souligne le désespoir de la belle vie. Le plaisir passe et le vide reste toujours là. Le Colette se vante d'être devenu le meilleur de son époque, une star connue pour sa richesse, son pouvoir, sa sagesse. Il se vante d'avoir gardé sa sagesse tout au long de son expérience. Mais de quelle sagesse parle-t-il dans ce texte? Une sagesse divine? Sûrement pas. Il n'y a rien de saint dans ce qu'il décrit dans ce texte, dans la recherche de plaisirs sensuels. La sagesse vient de Dieu, mais chez les êtres humains, cette sagesse est facilement détournée et pervertie en ruse et en tromperie. Dans le verset 10, le prédicateur philosophe nous parle des choses que ses yeux ont réclamées. Il nous parle de son cœur qui se réjouissait. Les yeux, ça désigne l'extérieur. ce qui était autour de lui, tandis que le cœur, ça désigne l'intérieur. Mais dans les deux cas, la conclusion est la même. Vanité, absurdité, futilité. Tout ce que ses yeux voient ne satisfait pas son cœur. Il finit comme il a commencé, en ayant une grande, parfaite entêté concernant la futilité du plaisir sous le soleil. Son hypothèse est valide. Tout est vanité, poursuite du vent. Bienvenue, dit le Qohelet. Bienvenue au lendemain de la veille. C'est le lendemain d'une beuverie, c'est la gueule de bois. C'est comme le matin de Noël où l'euphorie cède la place à la déception quelques minutes après qu'on ait ouvert les cadeaux. C'est comme un succulent gâteau à la fin d'un repas dans un bouchon lyonnais. C'est bon dans la bouche, c'est la misère dans les tripes, n'est-ce pas? En effet, c'est dur ça. Le plaisir passe et le vide reste, n'est-ce pas? Sous le soleil, dans un monde fini et temporel, l'amour passe et le vide reste. La famille passe et le vide reste. La richesse passe et le vide reste. Ce qu'on appelle la justice et la vérité passe, mais le vide reste toujours. Et un jour, on va passer, nous aussi, on va s'endormir pour toujours sous le soleil, on va rejoindre un vide éternel. Mais c'est la preuve que le seul plaisir durable, c'est le plaisir qui se trouve en Dieu. L'expérience ratée du Qohelet nous montre que la belle vie ne se situe pas sous le soleil. Encore une fois, on doit chercher notre plus grande satisfaction en Dieu. Nous sommes tous capables d'avoir cherché la belle vie et le plaisir dans le bonheur sensuel, en fait, dans des activités superficielles, même dans notre propre sagesse, dans notre justice légaliste. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, « Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Est-ce qu'on peut dire avec l'apôtre Paul que tout ce qui se passe sous le soleil, même les bonnes choses, ce sont des ordures en comparaison avec une relation personnelle avec Dieu en Christ Jésus? Est-ce qu'on peut souscrire aux paroles du cantique « Mon Jésus, je t'aime » qu'on a chanté tout à l'heure, qui dit « Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, ô Jésus. » Le plaisir durable est le plaisir qui se trouve en Dieu. Le seul plaisir durable, c'est le plaisir qui se trouve en Dieu. Et comment profiter de ce plaisir? Il y a trois choses que je veux mentionner. D'abord, on profite du plaisir de Dieu dans cette vie quand on pratique des plaisirs selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit pratiquer la belle vie et les plaisirs que Dieu nous donne dans sa création, dans la limite de ses lois, et pour le bien de nos frères et sœurs. Vous voyez? Le vin est bon, bien sûr, mais l'ivrognerie, non. La sexualité dans le mariage, c'est une bonne chose. La sexualité en dehors du mariage, ne l'est pas. La richesse avec la générosité, c'est bien. La richesse avec l'avarice, non. Je pense que Dieu veut que nous nous amusions dans cette vie sous le soleil, mais d'une manière qui lui rende gloire, qui respecte sa création dont nous faisons partie. On n'a pas besoin de vérifier par nous-mêmes l'hypothèse du Qohelet pour voir que les plaisirs charnels n'apportent aucune satisfaction en fin de compte. On n'a pas besoin de coucher avec la femme de son voisin pour comprendre que l'adultère, ça détruit le couple. On n'a pas besoin de mourir d'une overdose de drogue pour comprendre que l'addiction, ça détruit la vie. On n'a pas besoin d'arrêter de prier, d'arrêter de lire la Bible ou d'aller à l'église pour comprendre qu'une vie sans Dieu, ça ne satisfait pas nos besoins les plus fondamentaux. On doit pratiquer les plaisirs selon la volonté de Dieu. Deuxième chose, on profite du plaisir de Dieu dans cette vie quand on remercie Dieu comme étant la source de tout plaisir. On ne devrait jamais oublier qui est la source de toutes les bonnes choses dans notre vie. C'est pourquoi on remercie Dieu avant nos repas, n'est-ce pas? C'est lui la source. Pour reprendre la définition de la belle vie selon Comte Sponville, le plaisir, l'amour, l'action, la justice, la vérité, la vie. On est d'accord. Mais n'oublions pas de remercier Dieu pour ces bonnes choses. Et enfin, troisième chose, on profite du plaisir de Dieu dans cette vie quand on trouve notre plus grande satisfaction dans sa grâce. La plus belle vie est la vie qui intègre les réalités au-dessus du soleil avec ce qui se passe sous le soleil. La plus belle vie est de considérer tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. La plus belle chose de cette vie n'est pas quelque chose qu'on achète, mais quelque chose qui est donné par Dieu. Quand on accepte par la foi la grâce de Dieu qui a été rendue disponible par le sacrifice de Jésus à la croix, on entre dans une relation avec le Dieu de l'univers. Une relation qui va s'accompagner d'un plaisir et d'un bonheur éternel. Le seul plaisir durable, c'est le plaisir qui se trouve en Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, aide-nous dans notre recherche de la belle vie. Aide-nous à comprendre et à saisir le fait que la belle vie se trouve tout simplement dans ta grâce. Nous te prions afin que tu nous donnes avant tout la joie et le plaisir qui se trouvent en toi. Nous te remercions pour ta création, pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.